plus qu'on sache combien de. Pour l'intro, pour le Seigneur, les deux premiers livres. Donnez. Seigneur, à quel autre? C'est ça. Ouais, là, c'est clair. Alors. Thank you.
Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'église évangélique de Meyrin, que vous soyez habitués, que vous veniez depuis peu de temps, que vous soyez juste de passage, soyez accueillis au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, c'est le culte de la reprise. Qu'est-ce que c'est le culte de la reprise? Vous savez ce que c'est? Non? Et à l'école, vous savez ce que c'est la reprise ou la rentrée? C'est quoi? C'est quand on recommence, après les vacances. C'est ça la rentrée, non? Ouais. Ben, l'église aussi, on a un culte de la rentrée. Alors, c'est pas qu'il y a eu des vacances, mais durant l'été, c'est toujours un tout petit peu plus calme. Mais est-ce que Dieu, il prend des vacances? Non? Vous êtes sûr? Toi, tu as fait des vacances? Souvent. Ah, c'est cool, ça. C'est de la chance. Et Dieu, il prend pas de vacances. Ouais. Et toi, tu as pris des vacances aussi? C'est cool. Tu étais dans l'Afrique. Tu as de la chance. Ben, Dieu, il prend pas de vacances. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est super rassurant parce qu'on a quelqu'un à côté de nous qui est toujours là et qui ne change pas. Parce que nous, on change. Non? Est-ce qu'on change, nous? Ouais. Qu'est-ce qui change? Comment est-ce qu'on change?
Quand on devient grand.
Voilà, quand on devient grand, on change. On vieillit. On a le visage qui change. Bah, si on prend Philippe, viens voir Philippe. Philippe, il vieillit.
Non.
Ouais, et plus vite que les autres. Le 13 août, il a eu 50 ans. Bon, alors, c'est le culte de la reprise. Ça veut dire que les programmes de l'Église recommencent. Donc, pour vous, vous aurez le programme des potes. Il y a les plus grands, il y a le caté qui reprend. Et puis, il y a certains groupes qui se remettent en place aussi parce qu'ils ont pris un peu de vacances. Et comme le conseil, vous savez ce que c'est le conseil à l'Église? C'est quoi le conseil?
De ne pas faire de bêtises.
Alors, oui. Alors, il ne faut pas qu'ils fassent de bêtises et puis ils conseillent de ne pas faire de bêtises. Ouais. Alors, en fait, le conseil à l'Église, ça, c'est pas mal. C'est un bon conseil, merci beaucoup. Il faut en prendre de la graine. Hein, enfin. Le conseil à l'Église, il reprend aussi après un été plutôt light, léger. Et puis, on va vous le présenter parce que c'est aussi important que vous sachiez qui est dans le conseil. Et le conseil, c'est effectivement ceux qui réfléchissent à ce qu'il faut faire pour l'Église pour la suite. Donc, je vais demander au conseil de venir devant pour que vous ayez une petite vue d'ensemble de qui est dans le conseil. Mais je crois que je vais vous laisser vous présenter, c'est encore mieux.
Bonjour, je m'appelle Michaela Andriana Solo.
Barbara Jeunecamp.
Zena Battisti.
Sylvain Dupertuis.
Jean-Christophe Piguet.
Et Joanne Lerèche. Mais en fait, ça, c'est les conseillers, parce que quand on se réunit en conseil, il y a aussi les pasteurs qui sont là, parce qu'ils font partie du conseil. Donc, je leur demande de venir aussi, Célina et Philippe. Et puis, peut-être en ligne, je ne pense pas, non, je pense qu'il est encore en train de dormir, Mathieu, qui est aux États-Unis, qui prend une année de pause dans le conseil, mais qui fait partie aussi du conseil. Voilà, comme ça, vous visualisez bien. Et puis aussi, les enfants, vous verrez ici, quand on vous parle du conseil, et puis quand on vous parle des pasteurs, vous les voyez bien. Ok, merci. Et comme c'est la rentrée, c'est la reprise, eh ben, on est tous contents parce qu'on peut de nouveau chanter, de nouveau exprimer plein de choses, et je vous propose de passer à la louange.
Bonjour. Pour commencer cette louange, nous allons rendre gloire au roi des rois, au Seigneur de l'univers. Nous voulons nous prosterner devant lui, chercher son cœur de père, trouver sa volonté pour nous en chantant ses louanges. Dans le psaume 34, versets 2 à 4, David glorifie le Seigneur ainsi. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons son nom. » Nous chantons un chant de Nicolas Ternicien, « Ton nom est grand ». Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force.
Nouveau chant ensemble, qui est un chant qui a été choisi pour vous aussi, les enfants. Moi, c'est un chant que j'ai appris quand j'ai fait des camps avec des enfants aussi, et je l'aime beaucoup, ce chant. Vous allez le découvrir, il est assez facile, il est aussi pour nous tous, hein, les grands, les adultes. Il exprime des choses très fortes. Moi, j'ai encore juste une question pour vous, les enfants. Vous avez entendu, Johan, il a dit tout à l'heure que Dieu, il n'était jamais en vacances, qu'il était toujours là. Qu'on a affaire, nous, à un Dieu qui prend soin de nous, qui nous connaît, qui nous aime. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Qu'est-ce que ça nous dit dans notre cœur si Dieu dit « Je suis toujours avec vous » ? Moi, ça me dit que je peux avoir confiance en lui, en Dieu. T'as raison, Théo. Je peux avoir confiance en lui, parce qu'il est là, toujours. C'est un Dieu grand et c'est un Dieu proche. Et c'est ce qu'on veut essayer de chanter avec le nouveau chant. Alors on va l'apprendre, hein, on va se lancer, mais peut-être quelques-uns le connaissent. Si vous le connaissez, donnez du poumon. Merci à l'équipe musicale. Et les paroles, elles sont là. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs. Parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et moi, j'aimerais t'encourager à garder ces quelques mots. J'ai confiance en toi. Pendant toute l'année qui vient, c'est pas toujours facile à l'école, hein. Des fois, il y a des copains, des copines un peu compliqués. Des fois, c'est compliqué avec les devoirs. Des fois, c'est compliqué parce qu'on va pas très bien dans son cœur. Eh ben, dans ces moments un peu compliqués, on pourra toujours se rappeler, tu pourras toujours te rappeler que tu peux avoir confiance en lui.
Nicolas ? Et Claire, tout le monde. Oui. On fait venir déjà les. Donc, bonjour à chacun. Oui, tu peux venir, Claire. C'est la rentrée des potes aujourd'hui. Et eh bien voilà, vous avez devant vous quelques-uns des moniteurs qui vont vous accompagner pendant cette année. Et puis, bah, du coup, je vais les laisser se présenter un petit peu à vous. Nicolas, pour
commencer. Bah, certains me connaissent, puisque ça fait quand même bientôt 50 ans que je fais l'école du dimanche. Alors, je suis content. Alors j'espère juste pouvoir faire l'école du dimanche pour les enfants de ceux que j'ai eu avant. Vous aimez aller à l'école du dimanche? Oui. Qu'est-ce que vous aimez faire à l'école du dimanche? Vous aimez les histoires? Vous aimez bricoler? Les jeux? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que tu as dit? Les bricolages. Ah, très bien. Ben, il y en aura cette année. Mais on a fait des changements maintenant. Vous allez voir, on est en train de faire toutes sortes de choses, mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Tiens, vas-y à toi.
Voilà. Alors, Chantal, moi, ça fait 6 ans qu'on est là et ça fait 6 ans que je fais l'école du dimanche. Hein, et que je suis contente de vous retrouver. En tout cas, on est très contents de vous voir aussi nombreux ce matin. Et c'est vrai qu'on est très contents que vous soyez rentrés de vacances et qu'on puisse retravailler avec vous. Et vos monos, ils n'ont pas chômé cet été. Et oui, on a travaillé. Et au lieu que ce soit le groupe des potes, on devient le club des potes. Oh là là, ça vous reverrez aussi avec Nicolas. Qu'est-ce que c'est qu'un club et qu'est-ce qu'on va faire dans le club? Donc on aura des tas d'activités à faire avec vous cette année. Et dans un premier temps, on va redécorer les salles pour l'école du dimanche. Ça, c'est une bonne idée, vous ne trouvez pas? Et puis vous allez nous aider tout au cours du mois de septembre à faire des décorations. Et ensuite, ce sera la surprise, ce sera le 2 octobre. C'est pour ça qu'on profite d'en parler devant vos parents, parce qu'il faut que tous vos parents gardent en tête la date du 2 octobre. Parce que pendant le mois de septembre, on va étudier tous ensemble l'histoire de Joseph dans la Bible. Et le 2 octobre, il y aura les parents qui seront là. Alors, soit ils seront là, soit ils ne seront pas là pour le repas communautaire. Mais vous, vous devez être là parce que vous serez invités à un repas égyptien. Ouh, ça va être du tonnerre alors. Un repas égyptien le 2 octobre. Ah, il y aura des tas de choses, vous verrez. Ce sera la super surprise. Donc, gardez bien ça en tête. Vous recevrez encore des courriers par rapport à ça, mais je vous dis déjà, gardez en tête ce 2 octobre.
Et puis, j'aimerais vous présenter votre nouvelle monitrice cette année qui entre dans les potes, c'est Claire. Et du coup, je te laisse aussi te présenter.
Bonjour, donc moi je suis Claire, ça fait 6 mois que nous sommes ici, ça fait pas 50 ans, mais il y a un début à tout, un jour ça fera 50 ans, enfin on verra si je vis assez pour ça. Je suis très contente d'intégrer l'équipe et puis on va travailler ensemble cette année. Voilà.
Tu veux parler ? Oui, après c'est Nicolas qui veut prendre pour le club.
Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un se dire « Ouh, aujourd'hui, mais j'ai mal au dos, mais j'ai mal au dos. » Et puis la personne, elle lui répond « Oui, ben, bienvenue au club. » Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce qu'il y a un club des gens qui ont mal au dos? Non, ça n'existe pas. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on se sent comme elle, parce que nous aussi, on a mal au dos. Et puis s'il y avait un club des gens qui ont mal au dos, je pense qu'il y aurait beaucoup de membres, d'ailleurs. Non, en fait, le club, c'est des gens qui se rassemblent parce qu'ils font la même chose, ils aiment les mêmes choses, ils veulent faire des choses ensemble. Et pour l'école du dimanche, on a décidé de faire un club. Est-ce qu'on a le logo du club? Vous allez voir. Voilà, ça sera le club des potes. Et puis, vous allez recevoir, vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un courrier par la poste, très bientôt. Vous pourrez vous inscrire, et puis après vous aurez une carte de membre, et puis vous aurez toutes sortes d'activités qu'on va faire. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut que ce soit une surprise. Vous savez déjà qu'il y aura un grand repas. J'espère que vous serez nombreux et puis que vous aimerez bien ce qu'on va vous préparer. Mais réjouissez-vous, tout va être magnifique dans ce club.
Et le club des potes ne serait pas le club des potes sans les potes. Donc, je vais demander à tous les enfants de venir devant. Comme ça, comme nous, ne nous laissez pas seuls. Mama. Voilà, ils sont beaux, hein, n'est-ce pas? Attends, je vais. Simon, pousse-toi. Merci. Voilà, ils sont magnifiques. Je pense que vous ne connaissez pas tous leurs prénoms.
Donc, on y va avec les prénoms, comme ça, vous allez les connaître. Le premier,
Victor.
Bonjour, Victor.
Bonjour. Jérémy. Samuel. Aaron. Johan. Simon. Mathéo. Théo. Lydia. Félix. Zélie. Ayana. Rose. Raphaël. Lucas. Yafet.
Yafet. Vous pouvez les applaudir. Et puis je vais prier pour eux et après vous allez pouvoir descendre. Ah, le conseil va prier. Ah bah je commence et après, ok, ça marche. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette rentrée pour chacun de ces enfants. Je te prie Seigneur qu'ils puissent avoir de la joie, du plaisir à se retrouver chaque dimanche et de recevoir un petit bout de ta parole. Qu'ils puissent trouver dans ces instants de quoi avoir de l'espérance pour leur vie en toi, Seigneur. Amen.
Oui, Père Céleste, nous te remercions aussi pour les monos. Nous te les remettons, Seigneur, par rapport à tout ce qu'ils ont à faire. Nous te prions de pourvoir aux besoins spirituels, nous te demandons de les inspirer, Seigneur, durant tout ce temps. Veille, Père Céleste, poser ta main sur chacun d'entre eux, ceux qui sont ici, ceux qui n'ont pas été présents, et afin qu'ils puissent toujours être présents, toujours avoir l'énergie et les bonnes idées, Seigneur, et que ce groupe, Seigneur, soit toujours aussi soudé, Père Céleste, et même davantage, dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, moi j'aimerais te remettre tous ces enfants aussi, et puis j'aimerais profiter aussi de te remettre tous les parents. C'est pas un métier facile aujourd'hui, il y a plein de défis dans notre société. Et vraiment, j'aimerais te remettre les enfants et leurs parents pour que tu unisses les familles et que tu permettes aussi que dans les familles, on puisse découvrir la foi, parler de toi, te faire confiance en famille. Vraiment que tu sois au milieu des familles de notre Église. Merci pour toutes ces familles, merci pour tous ces enfants. Et ouais, vraiment veiller sur eux tous. Amen.
Vous pouvez maintenant descendre dans vos groupes.
Dans un petit moment, nous allons entendre le message que le Seigneur va nous partager par l'intermédiaire de Philippe. Dans 1 Corinthiens 3, nous sommes appelés à semer la parole autour de nous, à annoncer dans l'unité la bonne nouvelle du salut. C'est par la prière quotidienne que l'Esprit-Saint peut prendre toute la place dans notre corps, notre âme et notre esprit. Je cite Marion Muller-Collard dans Éclat d'Évangile. « Vis, mais ne vis pas seulement, vibre de la tête aux pieds, porte haut la lumière reçue du Dieu vivant. Éclaire les recoins négligés de la vie où son royaume surgit. » Ce qui nous aide, c'est de voir Jésus dans toutes les petites mais belles choses qui éclairent et réchauffent notre quotidien et dans les difficultés, sentir son soutien et sa paix. C'est le thème du magnifique chant de François Raymond que nous allons chanter « C'était toi ». Je vous prie, vous voulez. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. la paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Pour nous mettre à l'écoute de Dieu et de son message, nous vous invitons à chanter ce très beau chant de Dan Luyten qui nous invite à adorer le Seigneur dans la prière pour être ébloui par sa majesté et ébahi par son amour. Nous chantons « Ébloui ». Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, toi, près de ton corps, je peux entendre. Tu es, tu seras toujours là. Devant toi.
Les enfants que vous avez vus, s'ils sont là, c'est qu'avant, ils étaient plus petits. Eux aussi, ils ont vieilli. Et quand ils sont plus petits, ben, il faut s'en occuper aussi. Et on a une garderie. Cette garderie, on ne la voit pas toujours, elle n'est pas très visible. Elle est en bas, mais elle a un grand impact pour les parents. J'aimerais juste demander à Anne-Claude, voilà, qui s'occupe, qui organise le planning pour la garderie, de la remercier pour le travail qui est fait. J'aimerais aussi que chaque personne qui a fait au moins une fois la garderie se lève. Voilà, c'est toutes les personnes de l'ombre. Merci beaucoup. C'est toutes les personnes de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui font un grand bien aux parents. Ce petit moment qu'on a où on peut être déchargé de ses enfants et puis écouter la parole. On sait que quand ils sont petits, pour ceux qui ont le bonheur ou la chance d'avoir des enfants, c'est un petit moment exceptionnel où enfin on peut être à l'écoute de Dieu. Donc merci à tous ces gens, que vous soyez renouvelés, que tu sois aussi renouvelé dans tout ce que tu fais, et que aussi on puisse encourager pour ceux qui veulent essayer une fois, peut-être vous ne voulez pas faire seul, vous pouvez être à deux, vous avez vu les personnes qui ont déjà fait, ben vous pouvez venir vers une personne, venir vers Anne-Claude, et puis ça vient participer à l'accueil des familles dans notre église, et on y tient beaucoup.
Je voulais juste rajouter que, ben, avant, on a vu les potes qui ont fait une belle publicité, qui se sont vus pendant l'été pour préparer. Je voulais juste vous dire que pour la garderie, il n'y a pas besoin de préparation. Ça veut dire que vous venez un petit peu plus tôt que les enfants, il y a juste un petit peu de matériel à installer. Et après, voilà, l'objectif, c'est juste d'être avec les enfants, de jouer avec eux, qu'ils se sentent bien et puis qu'ils puissent ben, découvrir peut-être d'autres jeux qu'ils n'ont pas à la maison. Donc, en général, c'est un moment sympa. Et sans préparation. Donc voilà. Et puis plus on sera nombreux, ça fera moins souvent, moins de dimanches par mois. Donc ça peut être voilà, juste de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me contacter, à essayer une fois, comme l'a dit Johan, et puis me dire si ça vous plaît. Voilà. Merci.
Merci. Donc on a vu avant les potes, et puis maintenant il y a après les potes. J'invite Mireille.
Alors, après les potes, c'est de 11, pardon, c'est les ados de 11 à 15 ans que nous invitons à nous rejoindre. Il n'y a pas que Joël et moi dans l'équipe, il y a Rebecca qui peut aussi venir. Et Philippe, vous le connaissez, Philippe Anchaud, voilà. Alors, ça concerne les enfants de 11 à 15 ans. Et nous nous retrouvons tous les 15 jours le vendredi soir de 17h à 19h. Cette année, nous allons continuer sur l'enseignement de la vie de Jésus. Il y a toujours beaucoup à apprendre à son sujet et à faire des relations avec notre vie de tous les jours. La fin d'après-midi se déroule par d'abord un accueil avec un goûter, ensuite des lectures, et parfois on discute tous ensemble, parfois on se met en petits groupes pour aller plus en profondeur, plus personnellement. À part l'enseignement, on aimerait aussi que ce temps au KT soit un temps où les jeunes peuvent partager, peuvent questionner, exprimer leurs doutes, échanger en toute liberté. Et aussi créer des amitiés avec ceux de leur âge. Nous nous réjouissons. C'est parti, vendredi, le 2. Nous commençons vendredi. Et on se réjouit tous de vivre cette année. Voilà, autrement, on commence par un goûter. Et là, on apprécie beaucoup votre participation. Rebecca établit une liste. Et vous pouvez signer pour apporter un goûter un vendredi ou l'autre. C'est elle qui se charge de ça. Nous accueillons aussi très volontiers les copains de vos enfants pour un vendredi ou pour plus, pour découvrir ce que nous faisons. Ils sont tous bienvenus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, tu as tout dit.
Oui, j'oublie aussi qu'on introduit... On introduit des jeux aussi. Si on a le temps après ou avant, on fait des jeux là dehors ou à l'intérieur s'il pleut. Voilà, c'est une chouette équipe. Voilà.
Et puis pour les plus grands... Cet été, alors Maïka et puis Elliot.
Merci. Bonjour à tous. Donc, on va se présenter. Donc, Maïka, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le CTT ?
Alors, CTT, c'est le groupe de jeunes de l'église, donc on se réunit en bas. Et CTT, ça veut dire chrétien tout terrain.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce groupe de jeunes ?
Bah donc, on se réunit une fois par semaine et le but, en fait, c'est vraiment déjà de se retrouver entre autres chrétiens pour discuter de notre foi, de ce qu'on vit. On fait des études bibliques, on passe du temps juste ensemble, on joue, on a des soirées louanges. Vraiment, c'est très varié. Et voilà, le but, c'est vraiment de se retrouver entre jeunes de notre âge et partager notre foi. Et cette année, le fil rouge qu'on va un peu suivre pendant qu'on va essayer de mettre en avant, ça va être de suivre un peu l'histoire chronologique de la Bible, de vraiment aller en profondeur sur quel... Ouais, focus sur en fait des... chaque élément et les grosses histoires de la Bible pour vraiment être sûr qu'on connaît la Bible et qu'on connaît les grandes histoires qu'il y a dedans.
Tu nous as parlé d'âge, du coup. Est-ce que tu peux nous dire exactement quelle est la tranche d'âge ?
Alors, c'est à partir de 15 ans, ou bien si vous avez 14, mais vous aurez 15 dans ce semestre scolaire, et c'est jusqu'à 25, mais c'est libre à vous. Si vous vous sentez encore jeune à 27, 28, voilà.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, donc on se retrouve une fois par semaine. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment ça se passe quand on se retrouve ?
Alors, c'est le mercredi soir, toutes les semaines, normalement. On a un groupe WhatsApp, et si jamais il y a des trucs annulés, mais une fois par semaine, les mercredis, dans la salle en bas, à partir de 19h, on mange ensemble. Et puis, la soirée elle-même commence à 20h. Et normalement, on se finit à 21h30, mais vous êtes libre de rester avec nous plus longtemps.
Ok, parfait. Du coup, on a une activité justement en plus qui est un peu spéciale chaque année. Et cette activité, c'est le camp d'hiver. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce camp d'hiver, ce que c'est, vu que c'est quelque chose de spécial pour nous ?
Alors, le camp d'hiver, il va se faire du 27 décembre au 3 janvier. Et en fait, c'est un truc qu'on fait chaque année avec le groupe de jeunes de l'église de la Colline à Crissier. Et voilà, en fait, c'est un camp d'hiver. Donc, il y a du ski qui est proposé. Il y a différentes activités en journée pour les étudiants à l'université, on révise. Mais le but, voilà, c'est de passer une semaine ensemble avec des soirées autour de la foi à chaque fois. Et puis, cette année, on cherche aussi des cuisiniers et des aides-cuisiniers. Donc, si jamais, pour une semaine, pour nourrir 30 jeunes, on a beaucoup besoin d'aide. Donc, si vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à aider, volontiers, approchez-nous à la fin.
Ok, merci beaucoup.
Merci. Vous voyez toute l'activité qu'il y a pour les jeunes, pour l'accueil des familles. On y tient beaucoup et c'est vraiment un accent et une priorité qu'on souhaite mettre au niveau du Conseil. Et pour nous, c'est important de leur donner la visibilité, de leur donner les moyens de pouvoir se rassembler, avoir des activités, c'est important pour eux. On aura un temps de prière communautaire après la prédication qui permettra aussi de prier pour l'Église, pour tous ces jeunes. Donc on le fera après la prédication. J'invite justement, parlant de prédication, Philippe.
Merci Jean.
Je vais juste prier pour toi.
Ouais, volontiers.
Dieu Père, j'aimerais te remettre Philippe. Tu l'as inspiré pour préparer cette prédication, que tu veux le bénir, lui accorder la sagesse et l'intelligence de nous communiquer ce que tu as à nous transmettre. Par Jésus-Christ, amen.
Amen.
Alors, on est plus ou moins dans le timing.
Ouais, plus ou moins.
Ça me va bien, à quelques minutes près.
Ouais.
Je ne peux pas rester jusqu'à la fin.
C'est juste.
Donc, si tu me vois partir pendant ta prédication, c'est que tu fais trop long.
D'accord.
Je compte sur toi.
Je pense que tu vas partir pendant la prédication. Et tant qu'on y est, puisqu'on explose le planning et l'ordre du culte, moi j'aimerais juste demander à Camille et Chloé, le Rech, de bien vouloir s'approcher quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. Alors regardez-les bien, même quand elles arrivent, parce que vous n'allez pas les voir pendant quelques mois. Hein. Venez, venez les filles. C'est au débeauté, hein, vous me permettez. Camille et Chloé, il va vous arriver des aventures assez impressionnantes ces prochains jours. Vous nous dites deux mots.
On va partir le 1er... On va partir le 1er septembre en Irlande pour faire notre deuxième année là-bas de collège pour notre maturité bilingue.
Très courageux. Et ce que j'aimerais juste faire, c'est prier pour vous et puis pour vos parents et votre petit frère aussi, qui va avoir la paix. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Cher Seigneur, j'aimerais te remercier pour Camille et Chloé, pour ces deux jeunes filles de valeur que tu as prêtées à notre Église. Et j'aimerais te demander de les accompagner dans cette étape importante pour elles, te demander de les garder, te demander de les maintenir en paix, te demander aussi de les réjouir, de les bénir, de les fortifier pendant cette année en Irlande. Que ta grâce et ta paix reposent sur elles et puis aussi sur Joanne, Éléonore et Victor. Seigneur, tu sais, toi, ce que ça signifie de laisser aller un enfant. Et j'aimerais te demander, dans ta bonté, d'accorder aussi de la paix et de la joie à Joanne et Éléonore. Seigneur, on te remet cette année pour toute cette famille en te demandant de prendre soin des tiens, comme tu sais si bien le faire. Dans le nom de Jésus, amen. Allez, en paix, les filles. On se réjouit d'avoir des nouvelles, hein. Vous pouvez vous abonner, elles ont un compte Instagram, tout ça. Bon, ben, les vacances sont finies, hein, cette fois. Et la rentrée a pris ses quartiers. Le tourbillon de la vie reprend. Ça va, vous ? Ok. Ben, c'est pas toujours simple, moi, je trouve, ce temps, puis en plus avec une rentrée quand même un petit peu anticipée, hein, une semaine de vacances en moins. Et puis paf, on s'y retrouve, on y est, c'est fait, c'est la rentrée. C'est quoi pour vous la rentrée ? Qu'est-ce que ça signifie comme ça, en un mot ?
Horaire.
Ouais. On les avait laissés de côté pendant 2 mois, horaire, merci Séverine. Quoi d'autre pour vous la rentrée ?
Routine.
Ah ouais, on retrouve des routines. On aime bien la routine estivale et puis la routine de l'année pleine, c'est autre chose. Un ou deux mots comme ça, quoi d'autre ?
Club des potes.
Pardon ?
Club des potes,
merci de faire un petit rappel, bien vu Sylvie. Quoi d'autre la rentrée ?
Les devoirs.
Les devoirs. T'as des souvenirs, Johnny ? C'était douloureux les devoirs. Ouais, les devoirs. Hein. Quoi d'autre ? Les enfants dans les parcs, merci, ouais, les enfants dans les parcs. Peu de stress peut-être, peu de pression.
Beaucoup de monde
de nouveau. Hein. On a vu à la Migros, tout d'un coup, il y a des gens. En tout cas, c'est un temps, la rentrée, où des choses nouvelles commencent. Une nouvelle classe pour les enfants. Parfois une nouvelle personne au travail. Hein. On commence le 1er septembre, un nouveau travail. Une nouvelle inscription pour un club de sport ou à la HVM peut-être, avec un cours que vous avez soigneusement choisi. Un nouvel engagement dans l'église, j'espère. Par exemple, à la garderie, il y a des vrais besoins, il faut le dire. Par exemple, on vient de découvrir que ce matin, il n'y avait pas de garderie. Des vrais besoins pour la garderie. Ou ailleurs, hein, à l'accueil, à la technique. L'entretien des locaux, il y a de la place. En tout cas, c'est une étape qui est souvent pleine de défis, hein, nouveau départ en somme. Et puis pour nous, Église de Mérin, il y a aussi des nouveaux projets, il y a aussi des priorités affinées. On vous a parlé au colloque du vivre ensemble. L'enfance et la jeunesse, on le redit encore, c'est important pour nous. L'utilisation de la chapelle ici, et puis, si Dieu le permet, les 60 ans de l'Église, 2023. De belles choses en perspective, donc. Dimanche, dans 15 jours, nous allons vivre un nouveau culte découverte. Et Thierry et moi, on travaille sur ce format. Invitez des gens autour de vous pour ce culte découverte du 11 septembre. Une formation sur le culte est proposée sur 3 samedis avec David Porter. N'oubliez pas de vous inscrire. Nous allons démarrer avec Célina une nouvelle série d'ateliers de biblique sur le Dieu qui vient faire alliance avec nous. Et puis dans quelques semaines, nous vivrons le culte d'installation de Célina le 23 octobre. L'occasion pour Célina et moi de vous dire que c'est un honneur de vous servir comme pasteur. C'est un honneur de vous servir comme pasteur. Merci pour votre confiance. Merci pour les belles choses qui sont tissées. Nous mesurons le privilège qui est le nôtre de servir au milieu de vous. J'aimerais méditer avec vous. J'arrive pas à le lancer, je crois. Voilà, merci. J'aimerais méditer avec vous. Merci, Roxane. Un passage qui nous dit qu'une église, c'est bien plus qu'un pasteur. Une église, c'est bien plus qu'un pasteur. Et pas de bol, c'est un pasteur qui vous le dit. Je sais de première main qu'il y a parfois des injustices dans l'Église, qu'il y a des critiques, qu'il y a parfois des remarques qui blessent profondément, qui découragent même plus qu'on n'oserait presque l'exprimer. Même le pasteur le plus dévoué. Et généralement, les plus dévoués sont les plus blessés. Et un pasteur peut blesser aussi. Il peut être incompris, il peut être maladroit, il peut être partial. Si jamais vous aviez l'impression que c'était le cas, il faut venir me le dire. Mais un pasteur peut être maladroit parfois. Je crois que la Bible nous enseigne qu'un pasteur doit être honoré. On trouve ça à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Un pasteur doit être honoré. Mais, l'Église est plus importante que le pasteur. L'Église est plus importante que le pasteur. Alors, est-ce que c'est juste moi qui le dis ? Si c'est juste Bibi qui vous le dit, il faut vous méfier. Faites attention. Mais ce n'est pas juste moi qui vous le dis. La Bible le dit, et le passage qui le dit, on le trouve en 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 17. 1 Corinthiens. On va s'y arrêter dans les dimanches qui viennent sur 1 Corinthiens, ces fameux chrétiens de Corinthe. On peut déjà dire, juste pour introduire le sujet, que l'apôtre, il en a bavé avec eux. Que d'histoires, que de tensions, que d'idées fausses dans cette église de Corinthe. Et voici un exemple d'idées fausses. Leur façon de mettre des serviteurs de Dieu sur un piédestal et de négliger l'Église dans son ensemble. Et c'est Barbara qui va nous faire la lecture de ce texte dans Corinthiens 3.
En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine? Quand l'un de vous déclare « j'appartiens à Paul » et un autre « j'appartiens à Apollos », n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain? Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement au service de Dieu par lequel vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte celui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers les flammes d'un incendie. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple.
Merci, Barbara. Jusqu'ici donc, la lecture de la parole de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu sont passés par Corinthe, comme Paul, comme Apollos. Et les gens de Corinthe connaissaient d'autres serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Pierre, par exemple. Et voilà que ces gens de l'église de Corinthe comparaient Pierre, Paul, Apollos, l'un à l'autre. Ils aimaient l'un plus que l'autre. Ils se réclamaient de l'un au détriment de l'autre. C'est presque comme s'ils se battaient chacun pour leur idole. Dites-moi, Amérin, personne ne comparera un pasteur à un autre. Personne ne va comparer Amérin, une façon de faire à une autre. Mais si, vous allez le faire, bien sûr. Puis c'est normal. Mais ce qui ne serait pas normal, ce serait de penser que tout tourne autour d'un pasteur. Que tel pasteur représente l'idéal, que les autres sont nuls. Que quand on change de pasteur, tout tombe par terre. Ou que tout va être mille fois mieux. Si nous pensons comme cela, nous donnons trop de place à de simples hommes. Et nous ne comprenons pas que Dieu utilise les uns et les autres pour son œuvre. Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Et il en est de même aujourd'hui dans notre église de Mérin, avec les différentes personnes qui interviennent lors du culte. Alors certaines sont plus visibles que d'autres, certaines sont là plus souvent que d'autres. Il en est de même aujourd'hui à Mérin, avec un conseil diversifié, avec différents groupes de maisons, avec ceux qui travaillent avec les potes, avec le KT, avec le CTT, ou simplement qui effectuent juste un service, même tout discret, pour l'église de Mérin. C'est Dieu qui donne sa part à chacun et à chacune. Oui, les uns et les autres, vous faites quelque chose. Et pour commencer, avant de faire quelque chose, vous êtes là. Et ça compte que vous soyez là. Et vous êtes solidairement responsables. Bien sûr que nous sommes différents les uns des autres. Et c'est une richesse. Vive la diversité! Mais l'important, c'est ce que Dieu fait à travers nous, c'est ce que Dieu fait en nous tous et toutes ensemble. Alors oublions un instant Paul et Apollos, et puis surtout oublions Philippe et Célina, et pensons à Dieu qui fait croître. Le travail d'un pasteur, j'ai appris ça avec les années, n'est pas de faire grandir une église. Pasteur n'est pas un gérant de fonds qui change d'un banquier privé à l'autre. Le travail du pasteur, c'est de prêcher la parole, c'est de nourrir un troupeau, c'est de prendre soin les uns des autres, c'est de proclamer le bel évangile du salut. Mais Dieu seul fait croître son Église. Alors pensons à Dieu qui fait croître. Au verset 10, l'apôtre Paul ne dit rien d'autre que ça. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ni tel courant, ni telle tradition, ni telle théologie, ni telle famille historique, ni telle fédération d'église, ni tel ou tel nom, ni qui que ce soit d'autre, ni quoi que ce soit d'autre, ne sont le fondement de l'Église. C'est Jésus-Christ le fondement de l'Église, et c'est lui qui compte. Alors en quoi est-il le fondement? Si on le dit si fort, il n'y a qu'un seul fondement, Jésus-Christ, en quoi est-il le fondement? Eh bien, pour chacun, chacune, individuellement, il est le fondement de votre salut. Ce n'est peut-être pas encore vrai pour tout le monde ici, mais pour nous qui savons ce que c'est d'être chrétien, notre salut vient du Christ uniquement. Tout le reste n'est que garniture. Oubliez le reste. Pour votre salut, Jésus-Christ est le seul fondement. Nous ne pouvons pas commencer la vie chrétienne ailleurs qu'en Christ, ailleurs qu'avec Christ, ailleurs que sur Christ. Pour l'Église, Jésus-Christ est le fondement parce qu'il a donné sa vie pour elle. C'est probablement la raison pour laquelle j'aime le plus l'Église, pour laquelle j'y crois le plus, malgré les changements considérables qui sont intervenus à travers 2000 ans d'histoire. Christ a donné sa vie pour l'Église. Il est le Seigneur de l'Église. Il l'a voulu. Il va la conduire jusque dans la gloire. L'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il la prépare pour cela, contre vents et marées. Il la prépare. Et même pour notre vie en société. Le fondement pour nous, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, que nous reconnaissons comme Seigneur de toute la vie, pas juste de la vie de l'Église, pas juste de notre salut personnel. Il est Seigneur de toute la vie. Alors même pour notre vie dans la société, Jésus-Christ est le seul fondement. Il est le fondement. Jésus-Christ, vrai Dieu, venu comme un vrai homme, modèle de vie, enseignant parfait, mort à la croix pour nos fautes, vivant pour toujours, Jésus-Christ qui revient pour juger les vivants et les morts, Jésus-Christ dont le règne n'aura pas de fin. Il est le seul fondement. Est-ce que Jésus est le fondement de ta vie ? Est-ce que Jésus est le fondement de ta vie ? Pas encore. Alors il n'y a aucune raison valable pour repousser son appel. Tel que tu es, viens à lui pour que tout change. Est-ce qu'il est le fondement de ta vie ? Dis-le alors, en te faisant baptiser. Dis-le en aimant ton prochain comme toi-même. Dis-le par ta vie, et s'il le faut, utilise des mots. Il est le fondement de ta vie. Alors tu peux tout construire sur lui. Et ensemble, nous allons construire l'Église sur lui. Mais pas n'importe comment. Verset 10 de notre texte, « Que chacun prenne garde à la manière dont il construit. » Faites gaffe à la façon dont vous construisez. Comment construire sur le bon fondement? Ça, c'est une vraie question. Comment construire? T'as bien démarré. Jésus est le sauveur de ta vie. Tu acceptes qu'il est le Seigneur de l'Église. Tu dis, je compte sur lui pour ma vie en société, mais ok, comment construire? Si mes souvenirs sont exacts, l'apôtre Paul n'était pas ni architecte, ni maçon. C'était quoi son métier à l'apôtre Paul? Faiseur de tentes, il fabriquait des tentes avec du cuir, il fabriquait des tentes. Un maçon sait qu'on peut bâtir une bonne maison avec des matériaux simples. Un toit de chaume, une bonne charpente en bois, du foin comme matériau isolant, de la boue pour faire des murs comme au Moyen-Âge, tout ça c'est très bon. Mais Paul ne parle pas ici comme un maçon. Il ne veut pas construire une maison ordinaire, Paul. Il parle comme quelqu'un qui veut construire un temple pour Dieu, comme le temple de Salomon, un temple glorieux. Paul ne parle pas de ce que nous appelons, nous, des pierres précieuses, comme des émeraudes ou des diamants ou des rubis. Il parle plutôt de pierres nobles, comme le marbre, comme le granit, avec de l'or qui recouvrait le tout. C'est ça dont il parle en parlant de matériaux nobles. Et il dit que l'Église doit être construite avec des éléments de valeur, choisis avec soin, qu'on ne peut pas la construire avec n'importe quoi ni n'importe comment. Et je trouve qu'il y a là, particulièrement en début de saison, un avertissement pour les responsables, quels qu'ils soient. et je m'inclus dedans. L'Église a besoin de responsables qui aiment Dieu, qui enseignent droitement la parole de Dieu et dont la vie peut être citée en exemple. Les pasteurs ne doivent donc pas imaginer qu'ils sont à jamais au-dessus de tout reproche. Les chrétiens ne doivent pas les mettre sur un piédestal. Et les responsables de la garderie, des potes, du caté, du CTT, les responsables des comptes, les responsables de l'entretien ou de la technique, doivent eux aussi faire attention à leur façon de construire l'Église, selon le service qu'il leur a été donné, dit l'apôtre. Si c'est fait pour Dieu, alors ça doit être bien fait. Et c'est souvent bien fait. Et nous le constatons à de multiples reprises. Votre engagement ici, il est remarquable. Votre fidélité dans la libéralité, elle est remarquable. Quand on fait les choses pour Dieu, ça doit être bien fait. Comment peut-on faire, Église ? Très concrètement. Moi, je me suis noté quelques verbes tout simples. Comment faire, Église ? Ben, viens. On a besoin de toi ici. Quel que soit ton âge, t'es jeune, t'es senior, t'es très âgé, on a besoin de toi. L'Église, elle n'est pas la même quand t'es pas là. Quand t'es pas là, tu lui manques. Viens. Prie. S'il te plaît, prie pour l'Église. Pour ses activités, pour ses responsables, pour ses gens affaiblis, prie. Souvent, on le fait ensemble, mais on peut le faire chez soi. Prie. Propose. Il y a des trucs à faire. On n'arrive pas à penser à tout. On est limité dans le conseil, chez vos pasteurs plus encore. Propose. Puis quand tu proposes, fais-le, vas-y, lance-toi. Il y a de quoi faire. Donne. Merci pour la libéralité. Viens, prie, propose, donne. C'est un peu concret, non ? Comment est-ce que toi, tu construis l'Église ? Dans la fidélité à la parole de Dieu ? Dans le dévouement ? Dans l'amour fraternel ? Alors ça, ce sont des matériaux nobles, des pierres précieuses. Ou alors tu construis avec négligence, à distance, avec des jalousies, avec des coups bas, en laissant aux autres le soin de tout faire. Eh bien ça ne marchera pas. Parce que l'Église, ce n'est pas que le pasteur. L'Église, c'est vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et ce temple est saint. L'image de la construction concerne donc d'abord l'Église. Mais elle s'applique aussi à la construction de notre vie, à chacun, à chacune. Nous allons toutes et tous servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous devons toutes et tous prendre ces avertissements à cœur pour notre propre vie. Quels sont les éléments que nous mettons en priorité dans notre vie ? De la boue ? De la paille ? Ou du marbre et de l'or ? Ou des futilités ? Ou des choses de valeur, comme la droiture, comme l'amour des autres, comme le service, comme la justice, comme la générosité, comme le respect de la parole donnée, comme l'intégrité. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, t'as posé le bon fondement. Mais comment est-ce que tu construis ta vie maintenant ? Et je crois qu'à l'aube d'une nouvelle saison, ben c'est le moment d'y penser sérieusement. Dans ton travail, est-ce que tu es connu comme quelqu'un d'honnête, d'intègre ? Dans ton foyer, est-ce que tu communiques bien avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants ? Les aimes-tu ? Quand tu es seul devant l'ordi ou la télé, est-ce que tu sais éteindre quand il faut ? Est-ce que tu sais poser des filtres pour te protéger, pour protéger tes enfants ? Est-ce que tu sais modérer tes dépenses pour pouvoir donner là où il y a de vrais besoins ? Jour après jour, tu es en train d'ajouter quelque chose à la construction de ta vie, des choses de valeur ou des futilités, tu choisis.
quelqu'un ici devrait peut-être reconnaître. Dans mon ciment, il n'y a que du sable. Et ce sable, c'est du sable de mer qui va aspirer l'humidité pendant 40 ans. Mes ferrailles sont déjà rouillées. Ma construction ne tiendra pas. Si tu l'avoues, tu peux encore changer et rebondir. Et on peut en parler ensemble. J'arrive au bout, Johan pourra bientôt partir. Comment construisons-nous ? Ben, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais le jour, son jour à lui, le grand jour de l'Éternel, le jour du jugement, fera apparaître comment nous avons construit l'Église et comment nous avons construit notre vie. Verset 13. Telle personne inconnue, sans grand talent, sans grand éclat, comprendra enfin que pour Dieu, sa vie a vraiment compté. Telle autre personne, bien en vue, talentueuse, admirée, découvrira qu'en fait, toute sa vie n'était que du vent, qu'elle n'a rien fait qui vaille la peine d'être emportée dans le royaume de Dieu. Si elle a vraiment cru en Christ, dit notre texte, elle sera sauvée de justesse, elle perdra sa récompense, elle sera la dernière, et les personnes qu'elle méprisait seront devant. Elle sera sauvée, mais comme à travers le feu, dit l'apôtre Paul, comme à travers le feu. Comme quelqu'un qui se sauve d'un autel parce que l'autel est en feu et qu'il n'a pas le temps de prendre quoi que ce soit, même pas ses papiers. Vous êtes le temple de Dieu, mes amis. L'Église, c'est vous. Vous êtes le temple de Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le conseil, ce n'est pas juste tel ou tel responsable d'activité, telle ou telle personne historique. L'Église, c'est vous. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ce temple, l'Église, est saint. Parce qu'il est l'habitation du Saint-Esprit. Et regardez à qui l'apôtre le dit. On aura l'occasion d'y revenir ces prochains dimanches. Regardez à qui l'apôtre le dit. Il le dit à ces fameux chrétiens de Corinthe, immatures, divisés entre riches et pauvres, entre juifs et grecs, entre hommes et femmes, entre partisans de Paul et partisans d'Apollos, des chrétiens immatures, attirés par une soi-disant connaissance supérieure en dehors de l'Évangile, comme s'il pouvait y avoir quelque chose de valable en dehors de l'Évangile. Pas trop regardant pour des relations sexuelles, en veux-tu, en voilà, hors mariage, comme ça vient. Pas trop regardant pour le culte des idoles, en procès les uns avec les autres, dans le brouillard complet en ce qui concerne la scène, on en reparlera bientôt, dans le brouillard complet en ce qui concerne le Saint-Esprit, en ce qui concerne la résurrection. Et c'est aux chrétiens de Corinthe, c'est à eux que l'apôtre Paul dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Comme il le dirait à nous, avec toutes nos imperfections, toutes nos approximations, toutes nos failles, vous êtes le temple de Dieu. Pas l'église XY, pas la grande église ou la petite église, pas l'église qui a telle étiquette, mais vous, vous êtes le temple de Dieu. Et il n'y a qu'un mot pour cela, et je finis là. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la générosité de Dieu. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Il nous a donné sa plus grande bénédiction là où nous méritions sa plus grande condamnation. Dans la nouvelle naissance, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Il nous donne son esprit, il nous donne une nouvelle identité pour une nouvelle vie, il nous donne une nouvelle famille, il nous donne des nouvelles ressources, une nouvelle destinée. C'est la grâce. Il nous appelle à son service, alors que nous sommes encore tellement loin d'être parfaits. Il nous appelle à son service.
Il bâtit l'Église avec nous. C'est un privilège inouï d'en faire partie. Et c'est une responsabilité aussi. Il nous appelle tels que nous sommes, non pas pour que nous en restions là, mais pour que nous construisions dans la sainteté et dans l'amour. Moi, je comprends rien du mystère de la grâce. Mais je sais que la grâce de Dieu nous rencontre là où nous sommes et qu'elle ne nous laisse jamais là où elle nous a trouvés. Elle nous remet en route. Une église, c'est bien plus qu'un pasteur, qu'une pasteur. Vous êtes le temple de Dieu. Soyez-le. Amen.
Oui, nous sommes le temple de Dieu. Quelle joie d'avoir le Seigneur en nous. Dans le psaume 100, il est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Nous chantons Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, oh mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer. Son amour, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh. Ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Vous proposons un temps de prière libre. Après ce que nous avons entendu, je pense qu'il y a de quoi prier pour l'Église, pour les uns et les autres, pour ceux qui vont bien, pour ceux qui ont plus de difficultés. Soyez libres de vous exprimer brièvement dans la prière et on passera le micro pour que chacun puisse entendre, même à distance.
Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Seigneur, c'est vrai que dans une église, ben on est tout ça. Il y a des oreilles, des cœurs, des mains, des bras, des têtes. Et c'est vrai qu'on fait partie d'un seul corps. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce de déjà nous entendre, de nous mettre d'accord sur tous ces membres, mais qu'aussi chaque membre puisse prendre sa place et que chaque membre puisse aussi être sensible à la place de l'autre. Amen.
Seigneur Jésus, en bâtissant ton Église, tu lui as donné à son service des ministères, divers ministères, et nous sommes appelés à les reconnaître, ces ministères. Nous sommes appelés à les soutenir, à prier pour eux, à les écouter. Seigneur Jésus, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous qui est dans un ministère particulier au milieu de nous. Seigneur, tu as aussi donné à ton Église, à chacun, cette responsabilité, ce qu'on appelle un peu ce sacerdoce universel, où tout le monde est membre, tout le monde a une part. Chacun a une place, comme il a été dit, dans le corps. Alors Seigneur Jésus, que nous sachions être utile dans cette construction de ce bâtiment. Que la pierre qui est tout en dessus ou la brique sache qu'elle n'est rien s'il n'y a pas la pierre qui est tout en bas qui soutient. nous te louons et nous t'adorons parce que tu as fait toutes choses belles pour ton service et que cette église soit la gloire de ton nom, béni au siècle des siècles. Amen.
Merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Et merci de nous aider à porter du fruit pour ta gloire. Amen.
Oui, Seigneur, je te dis merci pour cette Église. Merci pour sa diversité, pour son ouverture. Merci aussi parce que c'est un lieu où on peut être encouragé et aidé quand on passe dans la difficulté. Merci pour nos pasteurs, dans leur diversité aussi. Merci pour la richesse des relations les uns avec les autres. Et c'est vrai, comme Philippe l'a dit, il arrive parfois que nous nous blessons les uns les autres et il y a des personnes qui se sont éloignées, peut-être parce qu'elles se sont senties blessées. Seigneur, rejoins-les aussi. Et donne-nous la grâce de vivre ces relations avec les autres dans ton esprit, dans ta présence. Et oui, nous te prions pour tout l'avenir de cette Église, du travail de tant de personnes qui sont engagées à tous les niveaux et de nos pasteurs, dans le nom du Christ. Amen.
Dans ce dernier chant, nous allons chanter l'évidence d'aimer notre Seigneur tel qu'il est. Seigneur, à quel autre ?
Voilà quelques annonces. Alors, après le culte, hein, pour la vie communautaire, comme d'habitude, le café et l'apéro, il y aura un apéro spécial aujourd'hui qui vous attend pour qu'on puisse se retrouver. Le mémo qui vous annonce les événements des deux mois suivants est prêt, donc il est, je pense, à disposition, imprimé là, et puis vous recevrez un message par courrier qui vous donne le lien. D'ailleurs, si certains d'entre vous ne reçoivent pas ces messages réguliers qui s'appellent ActuMérin, vous venez me voir et puis on vous met sur le fichier. Voilà. Alors, la reprise, le conseil aussi reprend après une certaine pause estivale mardi prochain à 19h15. Et puis, le caté reprend vendredi prochain, hein, le 2 septembre, à 17h pour les 11 à 15 ans. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. Et comme d'habitude, nous aurons un repas communautaire. Hein, ça veut dire que chacun apporte ce qu'il a envie et puis on partage tout. Voilà. Et la même semaine, il y a le jeudi du jeûne. Alors, il y a une petite affiche, voilà. Donc, on vous propose une journée conviviale. C'est vrai qu'on vous demande de vous inscrire pour pouvoir mieux s'organiser. On vous enverra un troisième rappel pour vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vous inscrire en ligne, vous pouvez vous inscrire sur la feuille qui est là, ou si jamais vous pouvez téléphoner à Claire-Lys Rex, voilà. Donc, venez nombreux pour partager cette journée. Je ne sais pas encore quel temps il fera, mais voilà, ça c'est... Voilà. Maintenant, on vous propose sur trois samedis une formation avec David Porter. Il est où? Il me semblait que je l'avais vu. Ah, voilà. Pourtant, il est assez grand. Donc, vous le repérez facilement, mais lève-toi peut-être quand même pour des nouveaux qui ne te connaîtraient pas. Voilà, merci David, qui a une double formation en théologie et en musique. Il nous a déjà apporté des choses très intéressantes dans des ateliers bibliques. C'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Voilà, donc inscrivez-vous pour cette formation. Vous avez aussi reçu le message, donc c'est les samedis 10 et 17 septembre et le 1er octobre. Puis je crois qu'il y a des prospectus à disposition dans. Là, voilà, si vous préférez les appeler flyers, c'est égal. Voilà. Alors, dernière chose, merci, comme Philippe l'a déjà dit, pour votre générosité. En effet, l'Église vit que des dons de ses membres et de ses amis, hein, que ce soit le bâtiment, que ce soit les salaires pastoraux, l'Église vit de ça. Et je redis, vous recevrez aussi un message plus précis à ce sujet, que les bulletins de versement roses que certains utilisent sont bientôt périmés. Donc, il faudra utiliser soit le bon IBAN, pas un numéro de CCP, soit le code... le QR code qui est préparé par notre comptable qui vous aide à faire les virements. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Oui, alors.
Je fais une petite annonce spontanée. Qui dit rentrée scolaire dit on pense aux prochaines vacances, n'est-ce pas? Et puis, ouais, parce que les prochaines vacances sont celles d'octobre. Et puis, j'ai vraiment l'immense joie et le plaisir d'être co-directrice d'un camp pour enfants de 6 à 10 ans dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, c'est un camp, le dernier camp à Rougemont avant la rénovation du chalet de Rougemont de la Ligue. Donc, on a le droit de quitter le chalet sans faire les nettoyages. Non, blague à part, donc il y a une belle équipe de moniteurs, beaucoup sont issus de Mérin d'ailleurs, et puis je co-dirige ce camp avec Joanne Rocha, qui est aussi issue de Mérin, et puis donc c'est avec plaisir qu'on accueille vos enfants durant la semaine des vacances d'octobre, c'est-à-dire du dimanche 23 octobre au samedi 29. Voilà, de plus en plus d'informations sur le site internet de la Ligue, et puis sûrement que je ferai parvenir un peu de publicité à travers le maire Actu. Voilà.
Et je peux vous confirmer que le chalet est super sympa. Hein. Voilà, j'y suis allé avec des élèves pour du ski.
La même semaine, nous accueillerons ici même la grande semaine de Kids Game, une semaine artistique, très ouverte sur l'extérieur. Il y aura de l'activité autour de Pâques. Je vous invite à vous lever pour juste un mot d'envoi et je demande à Dieu que sa grâce et sa paix reposent sur vous, qui renouvellent vos forces, votre joie, votre zèle, votre enthousiasme pour l'œuvre de l'Évangile. Allez dans la paix dans cette nouvelle semaine et arrêtez-vous pour l'apéro. On attend tous ça. Je vous ai vu regarder votre montre. Très belle semaine à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.